Alors, bonjour à tous. À nouveau, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce rendez-vous du podcast Connexion. Si c'est la première fois que vous suivez ce podcast, sachez que je suis José Herbert Akhodode, agronome socio-économiste de formation, titulaire donc d'un master spécialisé en économie et sociologie rurale. J'accompagne au quotidien les organisations professionnelles agricoles et les entrepreneurs à mieux performer dans leurs activités et à faciliter leur accès au financement agricole, l'accès au marché. Je fais un accompagnement sur toutes les chaînes de valeur des filières agricoles. Si vous avez un projet agricole, ce sera un plaisir de vous accompagner dans ce processus. Je suis également blogueur, auteur, et justement dans ce cadre, je vous invite à télécharger gratuitement votre exemplaire de l'e-book que j'ai rédigé avec l'appui de plusieurs entrepreneurs du Bénin et d'autres pays africains et au-delà, sous la préface de M. Ibrahima Théolam, qui est un entrepreneur consultant du Sénégal. Le lien est dans la barre de description. Il est offert et je serai ravi d'avoir votre feedback après lecture. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast qui est un échange, un partage d'expériences avec un jeune professionnel, avec un entrepreneur, une entrepreneur que vous allez découvrir. Et si vous avez aimé partager avec nous vos avis, et si vous souhaitez qu'on reçoive prochainement un autre invité, une autre invitée, c'est le moment de nous le dire dans l'espace commentaire. À bientôt. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur le rendez-vous du podcast Connexion, un podcast qui est consacré aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes professionnels sur le continent africain et au-delà. C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir des jeunes entrepreneurs qui, au quotidien, s'évertuent pour révéler davantage le potentiel de notre jeunesse, mais aussi qui sont des exemples d'abnégation, qui au quotidien font face à des échecs, mais qui réussissent à nous étonner, à réaliser des exploits dans leur domaine. Et sur cette ligne, justement, je reçois aujourd'hui un jeune entrepreneur, Ghislain Tiaoui Senhomme. Coucou Ghislain, bonsoir, j'espère que tu vas bien.
Bonsoir, Monsieur Hébert, je vais super bien et j'espère que tu vas très bien aussi.
Je reste en forme et c'est un plaisir pour moi de recevoir sur ce podcast. On va brièvement parler de toi. C'est vrai que les gens n'aiment pas qu'on parle d'eux, mais on s'est donné pour objectif de briser cela pour permettre de sensibiliser davantage les jeunes à l'entrepreneuriat. Du coup, c'est véritablement un plaisir de t'avoir. Et comme je disais, on discutait, je dis, c'est le numéro 22, c'est un numéro de bonheur 2022.
Ah ouais, c'est pas faux.
Alors, du coup, pour des gens qui ne te connaissent pas, qui te découvriraient pour la première fois, si tu vas te décrire assez brièvement, qu'est-ce que tu dirais juste?
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirais que je suis Ghislain, Tiaou. Je suis l'entrepreneur, je suis le gérant de Tiaou Group Service au Yacht Bénin et passionné de l'industrie, de l'agriculture, des négociations, de la communication, du marketing. J'adore tout ce qui a rapport à l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est moi.
Industrie, communication, marketing, négoce, ça montre un peu les secteurs divers dans lesquels tu interviens. On aura le temps de revenir sur chaque secteur, c'est le souhait. Mais dis-moi, tu as la tête d'une entreprise familiale, je veux dire, Tiaou Group. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Tiaou Group Service et Product, c'est une entreprise que j'ai fondé, que j'ai démarré il y a quelques années. Et c'est toute une histoire. Si je dois essayer de faire un petit résumé, je dirais que Tchao Group Service Product Chat, c'est une entreprise qui a revu le jour en pleine crise en 2020 et qui est spécialisée dans la production et la fourniture, la production et la fourniture, sinon la commercialisation d'huile végétale de première pression à froid au profit des industries cosmétiques du monde entier. Quand je parle d'huile extra vierge, je veux parler beaucoup plus des huiles telles que l'huile baobab, des huiles comme l'huile de nîmes, l'huile de moringa, l'huile souché, etc. Ce sont des huiles précieuses qui représentent des actifs pour l'industrie cosmétique naturelle. Voilà, on s'est donné beaucoup plus pour mission d'offrir ou de fournir, voilà, aux industriels cosmétiques naturels, parce qu'aujourd'hui on parle de la clean beauty, voilà, de la matière première de qualité utilisable pour éviter que l'industrie cosmétique continue d'exploiter des actifs issus des déchets pétroliers ou de la pétrochimie, voilà, pour continuer à fournir ou fabriquer des produits cosmétiques pour l'Afrique ou pour le monde, ce qui cause beaucoup de maladies et qui, entre autres, nuit à l'environnement. Donc, nous, notre mission, plus ou moins, c'est de ne pas venir fournir de la matière première de qualité utilisable, éco-responsable, voilà, aux industries cosmétiques naturelles. Donc, voilà un peu. Sinon, tout derrière, avant 2020, c'est une aventure qui a démarré en 2016 et que, voilà, on a connu les échecs et on est allé se chercher ailleurs dans d'autres secteurs. Et après, on s'est dit, voilà, il y a eu encore des échecs. Et après, on est revenu en force, on a capitalisé sur les expériences. On est revenu plus fort et plus. C'est une belle aventure, voilà, qui est en fait, que je vis avec mon équipe, avec mes associés. Et c'est une belle histoire qui s'écrit.
Une belle histoire. Et souvent, les belles histoires, c'est toujours parsemé d'échecs, comme tu as eu à le dire. Et effectivement, on va revenir sur cela. C'est une partie qui nous intéresse particulièrement. Mais avant, puisque tu as dit que c'est une aventure qui a commencé en 2016, vous avez raccroché pour revenir plus en force à partir de 2020. On va repartir aux origines. Pour que tu puisses nous dire, Ghislain, qu'est-ce qui a été à la base de la création de l'entreprise? Pas à la relance en 2020, mais déjà à les origines 2016. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer?
Merci pour cette question. Il faut noter que Ghislain, c'est un petit garçon téméraire qui vient d'une famille modeste, sinon pauvre, qui n'a pas forcément grandi avec papa et maman. Il a grandi dans la famille familiale avec voilà, sa maman. Enfin, dans la famille maternelle, j'allais dire, avec ma maman. Et en grandissant, voilà, ma maman a eu des difficultés. Et en cinquième, quatrième, déjà, j'avais déjà beaucoup de challenges d'enfants à maman. Il n'a plus sa maman à côté. Et désormais, soit il subit la vie, soit il décide de devenir acteur de sa vie. Et à partir de la quatrième, troisième, c'était compliqué. Ma maman était souffrante. Il y a une certaine souffrance à laquelle je n'étais pas du tout habitué. Il fallait que je me défende. Et tout est parti de là où j'ai commencé, voilà, à m'intéresser à qu'est-ce que je dois faire en tant qu'élève là pour pouvoir arriver à me nourrir, à subvenir à mes besoins à l'école, en allant à l'école, sans pourtant être un nécessiteux ou devenir quelqu'un qui fait pitié, parce que moi, je déteste faire pitié. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par m'intéresser aux affaires et je me suis lancé dans un business de biscuits et avec 500 francs CFA. Et ça a commencé 500 d'un jour à l'autre, voilà. C'est devenu 1000 francs, 1500, 2000, voilà. Et j'ai pris le nouveau business. Et ça ne m'empêchait pas de travailler également à l'école. Du coup, ça a évolué. Après mon baccalauréat, Il faut dire, bien avant le baccalauréat, j'allais déjà au Nigeria, j'achetais les biscuits en gros, et je revenais prendre dans la ville d'Alada et je vendais aux dames des marchés. Elles les achetaient chez moi pour revendre. Donc, aller à Kaouna pour acheter en gros, pour chez le petit à Alada, c'était beaucoup plus avantageux parce que pour aller à Kaouna, il fallait prendre les transports, aller voilà, faire beaucoup de tracasseries, revenir, alors que le gars, Damien, il se met de l'offre dans la ville pour prix top. Et ça a démarré ainsi, j'ai commencé à gagner de l'argent. Et... Mais après le baccalauréat, on était entre 2016 et 2017, je me retrouve à l'université désormais. Et je lisais beaucoup. J'ai eu un entourage qui m'a permis, je me suis fait des amis qui étaient très curieux et qui m'a influencé positivement. Donc, je lisais beaucoup. Et c'est l'étude m'a mené également à aller sur des formations. C'était ce jeu-là en première terminale, mais qui payait beaucoup d'argent pour aller sur des séminaires, voilà, sur l'entrepreneuriat, comment réussir. Je m'intéressais beaucoup à l'argent. Donc, cette thématique-là était beaucoup plus des choses qui me passionnaient. C'est ainsi qu'après le baccalauréat, j'étais à l'université. Et un jour, j'ai participé à une fois, à une exposition où c'était les entrepreneurs de l'Inois qui exposaient et tout. Et maintenant, voilà, je suis plus à la DA, j'ai changé de ville. Et il faut que je change de business parce que pour moi, je ne voulais plus continuer le biscuit. J'étais désormais à bout de la vie. Et il faut que j'ai commencé à m'essayer à d'autres choses. Je me suis lancé dans le gari. J'allais acheter du gari dans les villages, à Pakpa, à Togon. Je ramenais pour vendre aux dames à bout de la vie. Mais ça coulait difficilement parce que elle achète par exemple une bassine, il faut attendre un mois, 2 mois. Et du coup, c'était compliqué. Et je ne gagnais pas assez d'argent, mais que je paye l'université et que je continue à suivre à Bumekalavi. Donc un jour, j'étais sur une fois, j'ai vu qu'il y avait des entrepreneurs béninois qui sont arrivés, ils ont exposé, ils parlaient de leurs produits. Moi, quand j'allais dans les marchés à Kokbanou, dans les supermarchés, je ne voyais pas leurs produits. Ça m'a fait hic dans la tête. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On crée une entreprise pour répondre à un besoin, n'est-ce pas? Alors, eux, ils ont des entreprises, ils ont des produits, mais leur produit n'est pas sur le marché. On ne les connaît pas. Donc, conséquence, ce n'est pas sûr qu'ils vendent assez. Et automatiquement, mon entreprise est née dans ma tête à partir de ce constat-là. Et je n'avais pas de carte de visite, mais j'ai juste pris une feuille là, j'ai mis Justine Tchao, j'ai mis mon numéro, j'ai mis. Directeur de Tchao Group, Tchao Group Salle, voilà, c'était la première appellation. Directeur de Tchao Group Salle, et je commence à dire, oui, bonsoir, vous allez bien, je suis Justine Tchao, et je suis un as de la distribution, c'est vrai, en distribution, je ne suis pas des moindres, j'ai l'expérience, et partant de là où j'ai quitté, voilà, l'expérience au collège avec le biscuit, c'était déjà la distribution. Donc, et je vois que vous fabriquez vous avez un très bon produit, je ne vous vois pas sur le marché. Ça voudrait dire que vous n'avez pas une force de distribution assez percutante, très efficace. Moi, je peux vous aider à rentrer dans les supermarchés ou au cas où votre site n'est pas laissé faire supermarché, je peux vous aider à vous retrouver pour que votre produit soit présent dans les boutiques de Dalière, dans les petites boutiques du quartier, etc., etc. Et là, d'autres se sont intéressés à moi, on a échangé des contacts. Et c'est comme ça l'entreprise a vu le jour dans ma tête. Et la semaine qui a suivi, d'autres m'ont fait confiance. Et déjà, j'avais commencé par avoir des produits. J'allais vers les supermarchés. J'ai commencé par faire de la proposition. Enfin, par faciliter la cession des produits made in Benin au marché béninois. Donc, c'est
D'accord.
ainsi que voilà, ça a
Justin,
démarré.
c'est pas pour t'arrêter justement parce que j'essaie de suivre un peu la chronologie. Effectivement, tu as démarré petit, comme on dit, et tu as su grandir progressivement. Ce que je note aussi, c'est que plusieurs fois de suite, tu as changé de business, comme on dit, sinon de produit que tu vends, jusqu'à trouver l'opportunité d'assurer la distribution des produits agroalimentaires, c'est bien ça. Mais ça fait comment est-ce qu'on se sent quand on démarre comme ça et qu'on a le premier client qui décide de te faire confiance? Est-ce que il y a un sentiment de peur de ne pas réussir ou tu étais confiant en toi en termes d'expérience accumulée parce que tu dis que tu es un as de la distribution. Évidemment, ça peut faire fuir certains,
Mais voilà quoi. Pour toi, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as expérimenté cela?
Il faut dire que puisque ce n'était pas ma première expérience, c'est vrai que c'était la première vraie entreprise que je démarrais, que j'allais formaliser et tout ça. Mais tout de suite, quand l'idée a germé dans ma tête, je me suis lancé. Il y avait un problème et j'ai apporté une solution. Ils ont adhéré. Je n'avais pas peur parce que j'avais confiance en moi. Je savais que ça n'allait pas être facile parce que le terrain, on sait que c'est le terrain qui commande. Je savais aussi que quand les gens allaient me faire confiance et on allait démarrer, il y aurait des challenges. Et j'étais ce gamin qui n'avait pas peur des challenges. Je dis, tant que ça ne me tue pas, que je parviendrai le vaincre. Donc, voilà ma manière de voir les choses. Il m'arrive avoir peur, c'est normal, c'est un phénomène normal, mais pour que je sois autant inquiet, non, j'ai assez confiance en moi.
Donc, oui, effectivement, c'est une valeur sûre, en fait. C'est la confiance en soi, c'est l'élément principal parce qu'autrement, tu ne réussirais rien dans tout ce que tu entreprendrais. Donc, du coup, je comprends bien les origines. C'est parti de là jusqu'à un client, deux clients, tu puisses finalement officialiser l'entreprise. Et dans ce cheminement-là, dis-moi, quelles ont été pour toi les expériences les plus difficiles? On va aborder directement l'aspect difficulté que tu as rencontré dans ce parcours déjà.
Super. Quand je reste, sinon, si je reste collé, voilà, à cet aspect ou à ce moment-là précis, au démarrage, ou à ce moment-là de mon histoire entrepreneuriale, il faut dire que mes challenges, mes difficultés à l'époque, c'était la difficulté d'abord pour les produits béninois de pénétrer facilement leur propre marché, de se faire adopter. C'était compliqué. C'était compliqué. L'autre chose, j'étais aussi confronté à un challenge lié aux producteurs, c'est-à-dire à ces entrepreneurs-là qui fabriquaient les produits que Tchaou, Groupe SAL de l'époque distribuait. C'était les produits et soit c'était les problèmes de qualité ou l'autre problème. C'était aussi la capacité de production. Je me souviens, on a travaillé pour et la distribution d'un produit. Je crois que c'était une farine. Ça a démarré, ça marchait. On a frappé. J'ai mis en place une stratégie qui a réussi, une stratégie de distribution qui a vraiment marché pour ce produit-là à l'époque. Ça a commencé par couler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'entrepreneur s'est retrouvé dans l'incapacité d'assurer la disponibilité continuelle du produit. Et quelque part, ça a touché à nous notre efficacité, à notre fonctionnement. Voilà, ça a été un frein. Au-delà de ça, il y avait aussi des challenges, des difficultés financières. Voilà, l'équipe, tu es jeune et tu recrutes des gens. Il faut noter qu'à l'époque, j'avais 18 ans, 19 ans. Oui, 18 ans, 19 ans. Donc, tu recrutes des gars, tu ne regardes pas le haut. Ce gamin-là, c'est lui, il est ici, il veut me donner des ordres. Il y avait aussi ça. J'allais aussi vers des patrons d'entreprise qui fabriquaient des produits. Je leur parlais. Il me dit, mais ce jeune-là, il me dit quoi? Je lui dis, patron, voilà, il y avait seulement trois qui me faisaient, qui m'ont fait confiance. Il y a d'autres qui ne connaissaient pas ma force frappe. Et c'est plus tard, quand ils voyaient d'autres, ce que je parvenais à faire de leur entreprise, de leurs produits, que voilà, ils commencent à se rallier. Et voilà,
Progressivement.
voilà, il y a eu
Donc,
des challenges. Oui, plus tard, il y a eu.
effectivement,
Voilà, oui.
effectivement, Ghislain, c'est comme je dis, je fais beaucoup de conversations, autant avec les jeunes qu'avec les aînés. Et je me dis, on a parfois tort d'être jeune parce que on n'a pas eu confiance en toi parce qu'on regardait ton âge, on ne regardait pas forcément le potentiel que tu peux déployer. Mais c'est dommage pour notre société, enfin, cette manière de voir les choses. Oui, donc oui, on va évoluer pour que tu puisses, je sais, c'est vrai que si tu dois parler étape par étape de tout le processus, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais du début jusqu'à maintenant, quels ont été en fait pour toi, pour ton équipe, les grands changements? On a parlé déjà des difficultés. Les grands changements jusqu'à aujourd'hui être en mesure de pouvoir livrer des huiles naturelles et d'autres produits hors du Bénin avec un système que vous avez mis en place, avec un site internet, avec des possibilités de livraison dans plusieurs pays. Du coup, je vois qu'il y a un grand gap entre le début là et maintenant et la situation actuelle. Est-ce que tu peux dire quelles ont été les grandes étapes pour y arriver, pour être là maintenant?
Ouais, pour être là où nous en sommes aujourd'hui, ça a été un parcours d'échecs, de petites réussites et tout. Et l'expérience accumulée, je suis en train de le mettre au service de ce groupe-là qui grandit de jour en jour et qui s'expand de jour en jour à travers l'Afrique et le monde. Alors, je dirais que les grands changements, à un moment donné, j'ai rencontré les gens qui m'ont fait confiance. Parce que moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'héritage, mes parents ne sont pas riches. Et je suis parti de zéro, comme on le dit, sinon de 500 francs CFA. Et j'ai eu des gens qui m'ont fait confiance, qui ont investi, qui ont mis de l'argent dans ce que je fais. Qui ont dit oui, ton idée, elle est bonne, je suis prêt à te suivre. Il y a eu ces gens-là que j'ai rencontrés. C'est pas les banques ne financent pas les jeunes en Afrique. Et les gouvernements, le gouvernement essaie de faire quelque chose, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas de l'assistanat qui développe des pays ou qui permet de développer de grandes entreprises. Donc, ces gens que j'ai rencontrés sur mon chemin, j'ai rencontré un mentor, quelqu'un qui me guide, qui me dit « Oui, Justin, tu as de très bonnes idées. Si tu fais ci, ce serait bien. » C'est vrai que par moment, je ne respecte rien parce que je fais ma propre expérience. Parfois, quand je me cogne, la tête se revient, je dis ce qu'il a dit. Il avait totalement raison. Donc, au-delà de ça, il y a eu les rencontres. Des rencontres des gens, tu sors, tu apprends. Et après aussi, il y a eu des formations. Il faut se faire former. Il faut beaucoup apprendre. Chaque jour, on apprend, oui. Et voilà, donc ce sont ces personnes qui ont cru à un moment donné en moi, qui ont investi dans mon projet, dans mon côté. Et ces gens qui me guident, qui me donnent des idées, qui me cadrent, qui essaient de canaliser mon énergie pour que je puisse mieux l'orienter. Et après, ces rencontres au quotidien qui m'aident, voilà. Et après, il y a les informations. La formation, l'information. Parce que tu peux avoir l'information et ne pas savoir le traiter. Donc, cette capacité à trouver l'information et à savoir comment l'exploiter pour créer de la richesse. Donc, voilà, c'est surtout ça, les rencontres et les partenaires. Je dirais ça, ce qui a provoqué les changements et qui a permis que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui.
Les rencontres, les partenaires que tu as su rencontrer aussi au cours du processus, parce que, évidemment, au-delà même de l'argent, les conseils pratiques, c'est important pour pouvoir aller de l'avant. Les conseils, surtout des personnes expérimentées qui ont fait le chemin avant toi. Évidemment, c'est toujours utile de continuer par se former de façon continue, même en fait, jusqu'à actuellement. C'est clair qu'il y a des enjeux sur lesquels tu vas demander à te faire former, avoir l'information. Donc, c'est un processus évidemment qui prend du temps et ça nous ramène à une problématique qui est le financement, parce que tu as dit que tu n'as pas eu d'appui financier auprès d'une institution de microfinance par exemple, ni la banque ni une structure de financement décentralisée. Alors du coup, c'est d'abord tes ressources avec sûrement l'appui des partenaires qui t'ont rejoint au cours du processus. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport donc au financement des entreprises, des jeunes dans notre contexte? J'aime bien qu'on contextualise, donc tu maîtrises mieux le cas du Bénin. Est-ce que tu peux donner ton regard par rapport à ce cas précis concernant le financement des jeunes?
Je ne sais pas si vous allez apprécier ce que je vais dire, mais je dirais que nous n'avons pas encore démarré.
On est, on est, ce qui est bien ici, c'est qu'on est libre de dire tout ce qu'on veut. Donc,
Vous dire
voilà, c'est sans filtre.
que nous n'avons pas encore démarré. Nos gouvernants n'ont pas encore enclenché véritablement le processus qu'il faut pour accompagner les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs. Je m'explique. Ce n'est pas parce que nous avons 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans ou 20 ou 30 ans que nous ne devons pas avoir de grands de goals, de grands rêves. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes jeunes que nous ne devons pas chercher à nous attaquer à des secteurs d'activité. Donner si nous avons une solution, si nous avons quelque chose de particulier à apporter. Et ce n'est pas parce que nous sommes Africains ou Béninois ou Noirs que nous devrions être limités dans ce que nous allons, dans ce que nous voulons entreprendre. Du coup, vous voyez, quelque part ailleurs, là, un jeune comme nous, quand il a un projet, il veut démarrer, peut facilement lever 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars. Je ne parle même pas encore de ces startups-là qui ont moins de 1 an, 2 ans, 3 ans, qui lèvent facilement 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 4 millions de dollars. Alors moi, aujourd'hui, je rêve d'industrie. Parce que quand on parle, sinon l'autre, non, l'autre appellation par laquelle on nomme les pays développés, ce sont des pays industrialisés. Donc, moi, je rêve de développement pour mon pays. Je voudrais que désormais, je voudrais que nous, Africains, puissions nous respecter. Pour que nous puissions y parvenir, il faut qu'on puisse développer des industries. Et qui mieux que nous, jeunes, pour porter des idées d'industrialisation, des idées d'entreprise à caractère industriel pour pouvoir pousser le made in Benin. Alors, quand on parle d'industrie, ce n'est pas 5 000 dollars, ce n'est pas 3 millions, ce n'est pas 2 millions, ce n'est pas 4 millions, ce n'est pas 10 millions, non. Alors moi, quand il m'arrive que je me retrouve peut-être quelque part et on dit oui, quel est ton besoin en financement et que je parle de 500 millions, on me regarde, on me dit, mais vous les jeux, il faut démarrer petit, que l'autre là, il a démarré avec 5 000, on ne sait pas, c'est-à-dire moins de 10 dollars, ou sinon, tout de 5 dollars, hein, que l'autre a démarré avec 10 000. 5 000 francs, et aujourd'hui, il est milliardaire. Ouais, des autorités qui nous disent des choses comme ça. Donc, c'est la preuve que, en fait, ces gens, c'est comme s'ils ne vivent pas les mêmes réalités que nous. Ils ne
Et
veulent pas que nous rêvons.
je vois que tu n'es pas d'accord avec ce discours que certains aînés tiennent. Il faut
Oui,
démarrer avec
c'est
5 000, mais non, ça ne permet pas de faire de grandes
C'est
choses, en
vrai.
fait.
Voilà. C'est vrai que il faut démarrer petit, oui. Mais quand l'opportunité est là, l'opportunité de marcher, et que ton projet est viable, et que tu as éprouvé ton idée, et que le truc marche, et ils le voient, mais les gens sont incapables de t'accompagner, ou on te tourne en rond, voilà. Ou tu vas vers les banques. Les banques, on te propose des prêts de 10%, 11%, 12%. Mais un projet industriel ne peut pas se permettre d'aller prendre un prêt à taux de 10%, ce n'est pas possible. Un truc qui peut permettre à une entreprise comme la mienne de respirer et mieux se développer, c'est les taux de 1%, 2%, 3% maximum. Et nos concurrents, parce que moi, je suis dans un secteur où mes concurrents, ils sont en Turquie. Mes concurrents sont en Malaisie. Mes concurrents sont en Chine. Et c'est comme ça dans presque dans tous les secteurs d'activité. Du coup, si nous, on dit on est béninois, on veut se limiter, on est ça, et puis on ne peut pas se développer et on est limité, c'est compliqué. Vous voyez? Et je vais donner un petit exemple. L'année dernière, je participais à un sommet Japon-Afrique et j'avais pris rendez-vous avec un fonds d'investissement japonais. Et du coup, le premier fonds d'investissement, on était là à l'introduction et le simple fait que j'étais francophone m'a disqualifié. Ça fait un, je n'ai pas pu aller loin. Et le second, qui ils ont commencé à m'écouter et après la fameuse question, quel est votre besoin en financement? Parce que je viens du Bénin. Et quand on dit, nous jeunes, on dit qu'on a besoin de 1 million de dollars, on va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Il dit qu'il a besoin de 1 milliard avant de démarrer son projet. Alors, je dis, ah bon, enfin, là, on a besoin de 150 millions de francs CFA. Mais les gens m'ont dit, mais eux, ils ne soutiennent pas les projets de 150 millions de francs CFA. C'est au minimum 1 million de dollars, 1 million d'euros. Ça m'a fait un tic. Là où nous voulons aller, c'est loin. Et pour que nous puissions commencer véritablement par satisfaire les types de demandes que je reçois ou Thiago reçoit aujourd'hui, il nous faut plus d'un million d'euros, par exemple, pour nous développer. Mais je ne peux pas prétendre à ça facilement au Bénin. Et il faut franchement, vous voyez, donc c'est challenge-là nous limite. Et nous tournons en rond. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs avec de belles idées qui ne parviennent à aller nulle part. Donc voilà les challenges. Ce n'est pas l'histoire de, c'est pas fonds de microfinance qui développent de véritables entreprises, des startups qui vont gagner ou des industries qui vont véritablement dominer et rendre fiers les Béninois. Donc voilà moi, ma vision, voilà la manière dont je vois les choses. Et la preuve, la plupart de nos entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire, vous voyez comment des produits dans les des produits qui coûtent excessivement cher et à côté on trouve des solutions. Excusez-moi, j'ai légèrement dérangé la caméra. Et à côté là, il y a d'autres produits concurrents qui coûtent peut-être le produit concurrent là qui vient de l'international, qui a traversé les mers et tout, et là, et ça coûte 500 francs et l'entrepreneur béninois là, pour lui ça retrouve à 1500 francs CFA. Et l'argument c'est made in Benin. Non, ce n'est pas un argument de vente. Et il va te dire que c'est bio, tout ça. Ce n'est pas un argument de vente. Il faut, en industrie, on réfléchit. Le gars, là, son pouvoir d'achat, c'est combien? Le gars, son pouvoir d'achat pour se payer spaghetti, là, de 400 grammes, là, c'est 500 francs, par exemple, la moyenne de 400 francs. Donc, l'industriel doit pouvoir réfléchir pour fabriquer un truc, un produit qui va pouvoir être adapté au pouvoir d'achat de son marché cible. Mais si le gars et puis le produit et que le produit coûte excessivement cher parce qu'il n'a pas eu les moyens de capital nécessaires pour s'approvisionner en matières premières en grande quantité. Il n'a pas eu les moyens d'acquérir des machines qui vont lui permettre de produire en grande quantité, c'est-à-dire à grande échelle, pour pouvoir avoir des coûts de production assez bas et fournir le produit à bon prix. C'est compliqué. Donc, c'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de limitations que nous, jeunes entrepreneurs béninois et africains, avons et qui ne nous permettent pas de pouvoir grandir facilement.
Effectivement, le secteur industriel est consommateur, sinon budgétivore, comme on dit. Et il faut de grandes ressources pour pouvoir y faire face, développer ses capacités de production. Et comme tu as dit, c'est si tu es dans une certaine dynamique avec un certain niveau de production élevé justement, c'est seulement dans ces conditions que tu peux concurrencer avec les entreprises qui se sont installées en Turquie, comme tu as dit, d'autres en Chine, d'autres ailleurs, qui ont des coûts de production plus bas et qui effectivement ont des facilités de concurrencer. Du coup, nos entreprises, compte tenu des blocages justement que nous rencontrons, on n'arrive pas à compenser avec ces entreprises étrangères. C'est dommage. Et je pense qu'on fait un appel souvent à nos gouvernants, à nos autorités pour insister sur cet aspect parce qu'il s'agit aussi de prendre des orientations stratégiques, qu'est-ce que nous voulons, et de prendre des mesures pour surtout accompagner les jeunes pour ça pouvoir les renforcer et à pouvoir atteindre certains marchés. Et ce n'est pas forcément le but, mais est-ce que toi, dans ton cas précis, tu as un appel à lancer dans ce cadre-là ou de façon élargie, mais assez brièvement? Parce qu'en fait, on a un principe, c'est de dire qu'on ne va pas aussi compter sur le gouvernement, mais qu'on doit pouvoir nous battre au quotidien comme on fait. Mais je te concède cela. Est-ce que tu as un mot à dire? Parce que c'est une question brûlante. Est-ce que tu as un mot ou un souhait?
Est-ce que Jean m'a dit, il faut rappeler que oui, on doit pouvoir compter sur nous-mêmes. Mais tous les pays qui sont allés au développement, il y a une volonté politique qui a facilité les choses, qui a appuyé les entrepreneurs. Et eux, ils ont été les soldats du développement, tels que les militaires sont les soldats où nous protègent, assurent notre sécurité et tout. Les entrepreneurs, là, ce sont les soldats économiques des pays. Et quand on les arme, ils vont à la guerre et ils rendent leur pays fier. Donc, ce que moi, je vais dire, j'ai à dire mon appel au gouvernement, c'est qu'ils commencent à revoir leur politique, qu'ils commencent à réfléchir autrement et de cesser de dire aux jeunes que c'est avec 500 que quelqu'un a démarré et il est milliardaire. Ce n'est pas les choses qui encouragent la jeunesse à avancer. Donc, que, s'il faut même que l'État se mette à investir ou devienne associé, devienne partie prenante, actionnaire de nos entreprises pour nous suivre, agrandir, ouais, on est d'accord.
Pourquoi mais, pas prendre des parts aussi hein, dans l'entreprise, contribuer voilà. à l'actionnariat? Je pense que c'est des dynamiques qui voilà. peuvent véritablement booster nos entreprises à caractère industriel. Bon, que ce soit des PME ou des PMI également. C'est assez intéressant de discuter avec toi, tu vois, on ne voit pas le temps passer parce que je sens l'énergie que tu débordes et à évoquer ces aspects-là. C'est des questions qui sont stratégiques et c'est important quand je suis avec des entrepreneurs d'État trempe que j'aborde ces enjeux. Et en l'état actuel pour Tiao Group Service, quels sont pour vous les enjeux? On va laisser le financement, puisque si on te dit quels sont tes besoins en financement, tu vas dire en montant là, ouf, on s'attend déjà à ça. Mais quels sont pour toi les enjeux actuels?
Alors, c'est clair que vous ne vous attendez pas à me voir à cette partie précise du podcast. Je vous interromps justement pour vous dire de vous abonner. Rappelez-vous, la majorité de ceux qui suivent nos vidéos et les émissions du podcast ne s'abonnent pas. C'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Faites-le, et on continue juste après. Merci.
Les enjeux aujourd'hui, pour Tiao, c'est d'obtenir les certifications éco-responsables au niveau international. C'est de lever notre bâtir une industrie ou une unité de production qui répond beaucoup plus encore aux standards internationaux, c'est-à-dire une unité de production qui répond aux standards internationaux. Et nos enjeux aujourd'hui, c'est de développer dans le pays d'à côté avec 200 millions d'habitants. Nos enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un pas au Sénégal qui est notre premier, qui est notre premier partenaire commercial en Afrique de l'Ouest. Nos enjeux aujourd'hui, c'est de voir entrer de nouveaux actionnaires, de nouveaux associés ou de nouveaux investisseurs chez nous pour pouvoir nous permettre de relever ces différents challenges. Nos enjeux aujourd'hui, c'est de multiplier nos partenariats, nos clients, en Asie, en Chine principalement, en Turquie, au Canada. Voilà. Donc, nos enjeux aujourd'hui, c'est de voir, voilà, de permettre également à d'autres entreprises cosmétiques béninoises, de jeunes marques béninoises, accéder facilement à nos produits et à des coûts beaucoup plus abordables, même si nous avons des produits qui sont très, très abordables aujourd'hui. Et de les voir être capables de pouvoir s'acheter parce qu'ils ont des difficultés à acheter des produits de qualité pour pouvoir avancer. Et donc, voilà, de façon générale, globale, je crois que j'ai les ai touchés. Voilà nos enjeux aujourd'hui. Les certifications au niveau international, le développement de marché au niveau de notre partenaire de l'Est, de l'Ouest, pénétrer de plus en plus le Canada, la Chine, et nous installer au Sénégal, etc. etc. Voilà.
C'est grand. C'est grand et je souhaite vivement qu'on y arrive, que vous y arrivez, parce que ce sont des enjeux de taille et c'est un processus qui va se poursuivre justement à continuer à travailler, à mobiliser les ressources, parce que sans ressources, on ne peut pas réaliser tout ce que tu viens de dire, c'est clair. Et sans dévoiler des secrets d'entreprise, dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu mets sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que tu fais pour pouvoir mobiliser de nouveaux partenaires, que ce soit commerciaux ou financiers? Parce que les
Oh.
jeunes nous écoutent et quand on est dans une certaine position, c'est aussi toujours utile de donner des conseils. Comment est-ce que tu
OK.
fais?
Bon, je vais commencer par la partie partenaire financier. Il ne s'agit pas de dire, peut-être c'est un oncle, et tu sais, il a beaucoup d'argent, tu vas le voir, donc j'ai un projet bien financé. Non. Lui, il va toujours te regarder comme ce jeune garçon-là de la maison qu'il a vu naître, qui a grandi, et qui dit toujours, quand je serai grand, je vais acheter un avion pour maman et papa. Donc, lui, il a les moyens, mais il va juste te regarder. Il ne va jamais te prendre au sérieux. Mais c'est peut-être à partir du moment où il commence à voir tes preuves, il commence à voir les progrès que tu réalises et tout, et il dit, attention, ce jeune-là, il est en train de faire bouger les lignes, tu veux l'accompagner. Moi, j'ai connu ça. Ça, je parle, j'ai pris l'exemple d'un homme. C'est pas grand-chose, mais à un moment donné, je lui disais, j'avais ce discours-là, il ne me regardait pas. Plus tard, on s'est rencontrés des années plus tard dans le marché, par exemple. Et il me dit, mais Ghislain, tu fais quoi? Tu fais quoi? J'existais il y a longtemps. J'avais un collaborateur qui poussait un chariot avec nos produits dedans. J'avais des dossiers en main. J'ai dit, mais je suis arrivé au supermarché. Et il me dit, mais tu livres quoi au supermarché? J'ai dit, mais que je gère une société de distribution depuis plusieurs années et la plupart des produits fabriqués au Bénin ne prennent pas ma société pour se retrouver dans les supermarchés, dans les boutiques. Il était bluffé, il avait les dons pour lui, il était content, il a dit, attention, il faut qu'on se revoie, tu vas me dire ce dont tu as besoin et puis je vais te donner un coup de pouce. Plus tard, il m'a appelé, il m'a fait une formation où c'était autour d'un club privé. On a suivi des formations, il m'a donné un peu d'argent et j'avais beaucoup de dettes à l'époque et il m'a permis de me relever. C'est vrai que toutes les manières sont faites, mais c'est une manière, c'est une stratégie pour dire voilà comment vous pouvez convaincre les gens à vous suivre. Si c'est au niveau de la famille, il faudrait qu'ils puissent voir les fruits, ils puissent voir vos efforts, les résultats et puis savoir que vous êtes dans le concret. Au-delà de ça, d'autres, des gens aujourd'hui, mes associés, ceux qui investissent dans Tchao pour me permettre et me permettre de développer l'entreprise, ce sont des gens que je connais ou des gens que je n'ai jamais vus. Il y en a, j'en ai jamais vu, mais ils ont entendu parler de moi ou ils suivent les attitudes de la société de près. Ils sont fascinés par la manière dont on fait le travail. Et puis un jour, il t'appelle pour dire attention, je suis très intéressé par ce que vous faites là. Moi, je suis je suis dans tel pays, je voudrais pouvoir m'embarquer avec vous. Je veux investir tel dans votre activité. Voilà, j'en ai connu comme ça. Il y a d'autres. Et on participe à des salons, à des rencontres B2B, des trucs qu'il faut payer beaucoup d'argent peut-être pour pouvoir être assis à côté de grandes personnalités qui te présentent et tout, tu parles de ton affaire. Plus tard, vous continuez à échanger. Et peut-être te propose de venir faire business avec toi. Voilà, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contacts qu'on tisse et c'est pourquoi ta manière de parler de ton business, ta manière de communiquer, de parler de ce que tu fais et tout ça attire l'attention. J'ai connu des gens qui sont arrivés et qui ont proposé, voilà, rentrer chez nous, investir de l'argent chez moi et dans Tchao du moins. Et voilà. Et après, tout faut dire que un bon projet, c'est bien, mais l'entrepreneur compte beaucoup. Les investisseurs investissent très peu dans un projet, ils investissent dans l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, il doit pouvoir être enthousiaste, il doit pouvoir démontrer qu'il est capable de mener le projet à bien. Il doit démontrer qu'il a les compétences, le talent et les soft skills qu'il faut, la résilience, un bon mental et tout pour mener le projet à bien. Donc voilà comment autrefois les rencontres à travers les salons, des rencontres bidou, des rencontres, voilà, du palais d'événements, col blanc.
Surtout, oui, les événements à col blanc. Non, c'est utile parce que je pense que ça contribue fortement au réseautage parce que des gens que tu vas rencontrer, peut-être même, ce n'est pas directement ceux-là, mais c'est des connaissances à ces personnes qui pourront voilà, finalement intervenir financièrement dans ton entreprise. Mais ça nous ramène toujours, quel que soit le format, à démarrer d'abord parce que tu as parlé de ton oncle, à démarrer d'abord et à montrer qu'on est capable de grandes choses pour pouvoir justement inspirer les autres. Parce qu'on en rencontre aussi, hein, nous sommes jeunes, on en rencontre parmi nous qui, effectivement, n'ont pas encore démarré, qui nourrissent de grandes ambitions et qui demandent aussi à être accompagnés. Les gens sont réticents parce qu'on ne t'a pas vu faire, on ne sait pas de quoi tu es capable. Donc, oui, toujours démarrer.
Voilà, pour ces partenaires-là, parce que c'est les gens qu'on fait, on fait déjà. L'activité se déroule déjà, même si c'est à petite échelle, et ils trouvent le potentiel qu'il y a dans ça, si véritablement il y a les moyens qui accompagnent et tout. Donc voilà, il faut toujours démarrer, il faut commencer à démontrer que oui, on fait quelque chose, on a besoin de plus de moyens pour aller loin et mieux développer. Voilà. Et maintenant, vous avez une question à deux volets, volet commercial ou développement d'entreprise proprement. Bon, il faut reconnaître qu'il y a, vous savez, l'entreprise, c'est beaucoup de secrets. Hein? On ne va pas se mentir.
C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas... sans dévoiler les secrets d'entreprise. Mais on peut me surnager comme ça dessus.
Mais ça va être peut-être plus ou moins pour de négoce ou de code. Il faut tout simplement savoir à qui s'adresse votre solution ou votre produit. La cible de votre entreprise, vous devez la connaître. La maîtriser parce que c'est la base. Et à partir du moment où tu connais ta cible, nous avons plusieurs canaux de communication qui permettent de toucher nos cibles. Et il y a aussi ces cibles-là qui ne sont peut-être pas sur Internet. Et il y a aussi cette cible-là où moi, j'avoue, est beaucoup plus dans le B2B. C'est-à-dire business to business. On vend à des entreprises. Alors, pour pouvoir vendre à des entreprises, je vais donner un petit exemple. D'hier, du vendredi dernier à aujourd'hui, j'ai conclu un contrat pour Tchaou. Vous savez depuis quand ce client a été touché? Ce client a été touché en décembre 2020.
Ça
et
fait...
on est rentré en négociation.
Oui, pratiquement 2 ans.
Et on a négocié tout ce temps-là. Et c'est en avril 2022 que le client a effectué son premier achat. Ce n'est même pas un vrai achat, c'est-à-dire il dit, OK, je voudrais des échantillons, vos produits, on a dit tel. Et même, juste des échantillons, ça se chiffre à des millions, en fait.
Oui.
Donc, imagine que ce client-là décide d'acheter véritablement. Donc, on dit que chaque secteur a ses réalités. Si c'est le B2C et que vous voulez toucher le client direct, il y a les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Dans le B2B, il y a des plateformes spécialisées. Je ne peux pas me mettre à citer les plateformes aujourd'hui pour ne pas attirer les concurrents. Mais il y a des plateformes qui existent. Si on est dans le B2B, il y a des plateformes qui existent. Mais là aussi, il faut sortir de la bulle Internet et pouvoir aller chercher les clients. C'est-à-dire, il faut prendre un rendez-vous, aller chercher les gens, faire des présentations, parler de ce que tu fais, montrer que cette entreprise-là ou le client-là, cette personne-là doit adopter ton produit. Il faut sortir, aller proposer tes solutions. Il faut participer à des événements. C'est vrai, je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui participent à tous les événements, à tout vent, et ils sont partout et nulle part, mais ils ne vendent pas. C'est un problème.
Parce qu'en fait, le problème dans ces cas-là, c'est que tu t'es diverti, tu ne fais plus focus sur l'entreprise. Parce que si tu es dans tous les salons, qui gère l'entreprise? Du coup, il y aura faillite. Hein?
Non, ça peut être efficace. Mais si tes clients, en réalité, ne viennent pas à ces salons, ne viennent pas voir à ces fois-là et tout, ce sera inutile. Ce sera de l'argent gaspillé, de l'énergie gaspillée, du temps gaspillé. Alors, il faudra aller te poser là où tes clients sont. Donc, voilà. Donc, le travail qu'on fait beaucoup plus pour toucher des clients, pour convaincre, c'est d'aller se positionner là où nos clients sont. Et tant que tu as la bonne offre, je le disais il y a quelques jours dans un post, dans une publication, tant que tu as la bonne offre et que tu es face à ta vraie cible, reste focus, reste concentré. Et peut-être son fournisseur actuel, là, patiente, il va faire une erreur un jour, un défaut de qualité, et ce sera ton jour. Donc, voilà.
Oui.
Il y a beaucoup de canaux, il y a Internet qui nous offre des possibilités infinies. Il y a les réseaux sociaux, des plateformes de rencontres, voilà, B2B. Et aussi, il faut sortir, il faut participer à des événements stratégiques où tu vas pouvoir t'approcher. Si tu vises peut-être le patron de la société Parfumerie Gandou ou d'Abidjan, par exemple, et que tu ne parviens pas à le toucher sur via Facebook, peut-être ces gens sont sur Facebook, mais ils ne sont pas autant exposés que les gens qui veulent acheter des produits de façon directe. Alors, et aussi, en B2B, c'est tout un processus. Il faut que peut-être le chef d'approvisionnement, tu le touches, et lui, il sait que tu existes, et lui, il ira présenter ton offre quelque part, et vont en discuter, et c'est un processus. Donc, vraiment, il faut être armé, avoir la patience.
C'est tout un processus. J'ai l'impression que tu es déjà en train de conclure, parce qu'on se rapproche de l'heure de conversation. Et on aborde effectivement à ce moment précis des conseils aux jeunes. C'est vrai que tu continues de prendre des conseils auprès des aînés, mais il y a des moins jeunes que toi qui sont intéressés aussi par l'entrepreneuriat. Et je veux dire, si tu vas donner des conseils aux Ghislains jeunes comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais en deux, trois? Trois principaux conseils que tu lui donnerais.
La plupart des entrepreneurs disent oser. C'est vrai, il faut oser. Il faut oser. Mais moi, ce que je dirais, au-delà d'oser, parce que j'ai osé et j'ose la plupart du temps, c'est quoi? Quand on sort de l'université, peut-être, ou tu n'as forcément pas fait l'université, et que tu as une idée quand même, tu veux entreprendre, assure-toi d'aller apprendre auprès de quelqu'un. Moi, je n'ai pas eu la chance de travailler en tant que tel, en tant qu'employé dans une entreprise, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. Pourquoi? Parce que je veux connaître cet environnement-là. J'ai envie d'avoir un patron. J'ai envie de voir comment ça se passe avec les collègues. Et quand tu gagnes un salaire, ce que ça fait... C'est bizarre, en fait. Je ne sais pas si d'autres vivent ça. Mais moi, en fait, c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai envie de vivre. Pas parce que mon entreprise n'avance pas ou ne progresse pas, non. Mais parce que j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose. Vous allez constater que les gens qui ont fait le salariat, qui ont peut-être été fonctionnaires ou salariés, avant de virer vers l'entrepreneuriat, ils ont une facilité d'exceller. Et aussi, en temps, ils ont pu avoir l'opportunité d'épargner de l'argent, de mettre de l'argent de côté, de beaucoup se préparer, d'avoir le minimum pour se lancer. Mais les gens aujourd'hui ne disent pas la vérité à nos jeunes. C'est vrai, moi, à un moment donné, avant de me lancer, j'ai fait du volontariat. Je suis allé dans des entreprises, j'ai proposé de travailler gratuitement. Et c'est là que j'ai eu mon second mentor. Il m'a ouvert les portes de chez lui. Et à un moment, il m'a même fait confiance puisqu'il disait que tu as trop le potentiel. Et il me laisse un entreprise, je deviens le manager au bout de quelques mois. Alors que j'avais soif d'apprendre, je voulais rester sur lui. Et je me retrouve être encore chef techniquement d'entreprise. Et plus tard, je suis parti, mais il ne voulait pas me laisser. Mais j'ai fait en sorte de former d'autres personnes comme moi, à qui il pouvait faire confiance. Je suis parti et tout. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je dirais, assurez-vous de rester auprès d'un aîné et d'apprendre. Il ne faut pas aller faire des magouilles parce que moi, il y a des valeurs qui me sont chères, l'honnêteté, l'intégrité, la persévérance, la curiosité. Ce sont des valeurs qu'il faut cultiver, des trucs qu'il faut cultiver et rester très intègre, c'est important. Donc, aller auprès des gens, pas forcément peut-être pour gagner de l'argent, mais pour apprendre, pour acquérir de l'expérience. Et là, quand vous allez vous lancer, il y a des erreurs que vous allez éviter, comme moi. Bah, j'ai fait des erreurs qui m'ont été fatales. Je me suis endetté. J'ai pris des locaux à un moment où je ne devrais pas prendre des locaux en plein cœur de Cotonou. J'avais beaucoup de charges et après, c'était compliqué. Aujourd'hui, Ciao progresse. Au-delà de l'unité de promotion, je vous dirais que sur Cotonou, je n'ai pas de bureau. C'est vrai, j'ai un bureau, mais je dors en même temps encore au bureau. C'est fou. Pas parce que là, on n'a pas les moyens ou Thiaou ne peut pas supporter, mais parce que là, tout de suite, ce n'est pas opportun. Quand le produit quitte l'unité, ça quitte l'usine, ça va directement chez les clients. Donc, il faut rester auprès d'autres pour voir comment ils ont fait, bénéficier de leurs conseils et tout. Et pour se lancer en entrepreneuriat, on est au contact du risque au quotidien, de façon permanente. Il faudrait que tu aies le
Effectivement.
minimum, que tu t'assures de suivre la tête du tout. Et maintenant, tu te lances et tu sais que tu te lances dans une aventure, ce ne sera pas tout le temps la joie. Les gens vont te refouler, tu vas tomber, tu vas te relever et tout. Donc, du coup, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un truc, ce n'est pas pour les bébés, c'est vrai, c'est pour les humains. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas entreprendre par subisme. Il ne faut pas se jeter parce que d'autres a dit qu'il gagne 3 millions par jour ou parce qu'il se fait 100 millions le mois. Non, c'est tout un processus. Et à partir du moment où on est conscient que c'est un processus, à partir du moment où on est conscient que c'est des responsabilités, sinon c'est une responsabilité qu'on veut assumer, on se lance. Et quand on se lance, on ne saute pas d'étape, on ne brûle pas d'étape, on reste patient et on monte un à un. Et chaque jour, on s'efforce à prendre quelque chose de plus. Si quelqu'un te ferme sa porte aujourd'hui, repars, demande-toi ce qui n'a pas bien marché, et le lendemain ou le surlendemain, repars avec une nouvelle stratégie, un jour va t'ouvrir et vous allez faire affaire et ça va marcher. Donc, c'est la patience. Il faut aimer son travail. C'est l'un des secrets. C'est quelque chose de très capital qui va te permettre d'avancer. Si tu n'aimes pas ce que tu entreprends, tu n'aimes pas ton métier, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras pas exceller. Moi, j'adore mon métier. C'est dingue. J'aime quand je suis en train de négocier un contrat. J'adore quand je veux aller parfois livrer moi-même un produit. Je veux aller au contact du client. J'aime mon métier. Et ça fait qu'il y a une différence entre moi et quelqu'un, un concurrent qui n'aime pas peut-être le métier. Il le fait parce qu'il doit manger. Il le fait peut-être parce que c'est chaud. Moi, je le fais parce que j'aime ce que je fais. Et ça fait que les gens ont envie de travailler avec moi. Donc, il faut aimer ce que vous faites et mettez-y tout l'amour. D'autres vous parleront de passion. Et attention, il faut être passionné, mais quand on veut faire le business avec la passion, on souffre. C'est un peu bizarre. Quand tu te lances, tu es passionné, que tu veux faire le business
Effectivement.
avec un passionné, c'est-à-dire que les gens, ils vendent parfois à perte. Et puisqu'ils sont passionnés là, ils sont là, ça ne progresse pas, ils ne bougent pas, ils savent, il y a beaucoup de détails qui les échappent et après, ça ne va pas loin. Il faut aimer le vide. On fait, il faut être passionné, mais il faut avoir les yeux ouverts, il faut être sûr de ce qu'on fait et être en train de corriger ses erreurs au fur et à mesure. Et démarrer, il faut oser démarrer, il faut commencer, poursuivre et après on va couronner. Si tu échoues, il faut te relever. C'est la résilience, la foi et tout ce qui va avec. Donc je crois, j'ai dit, je me suis répété. Donc ceux qui vont
Oui,
nous écouter, ils seront quoi? Espoir avant.
effectivement, tu as partagé des pépites, on va dire, avec nous, beaucoup de valeur. C'est assez intéressant de t'écouter. Moi, je n'ai même pas envie que la conversation se termine, mais malheureusement, nous sommes limités. On va devoir atterrir, mais pour dire que je note de la résilience. Parce que c'est un chemin qui n'est pas facile. Il faut oser dire qu'il y aura des difficultés qu'il faudra braver pour pouvoir au quotidien gravir les échelons pour y arriver. Et on a bien noté ça. J'espère que ceux qui vont nous écouter, nous suivre sur les différents canaux, ont pris bonne note aussi pour pouvoir eux aussi, s'ils nourrissent ce rêve de pouvoir être créateur d'entreprise, de pouvoir le faire véritablement, sachant que ce ne sera pas facile. Est-ce que, Ghislain, pour finir, tu aurais un mot? Parce que je suis au regret de te dire que nous sommes à la fin de cette conversation très enrichissante.
Fini, je vais tout simplement dire, trouvez, définissez ce que vous voulez, tracez votre chemin et poursuivez-la. Définissez ce que vous voulez, tracez le chemin pour aller chercher ce truc-là, pour atteindre ce résultat et mettez-vous à le poursuivre. Et Ne reculez pas tant que vous ne l'aurez pas. Osez comme moi, rêvez comme moi. Je viens de nulle part et aujourd'hui, de plus en plus, je me sens fier de moi, même si l'objectif est encore très loin.
L'objectif est loin, effectivement. Tu te sens fier. Nous sommes fiers aussi de ce que tu essaies d'accomplir malgré les challenges au quotidien. Justin Chéreau, c'était un plaisir pour moi de te recevoir dans ce podcast. Et nous souhaitons le meilleur à toi, à ton entreprise et à ton entourage. Il faut être rassuré de quelque chose. Tu inspires et tu inspireras davantage de jeunes, que ce soit au Bénin et sur le continent.
Merci. Merci beaucoup à toi, José. Merci de m'avoir honoré, de m'avoir permis, voilà, de participer à cet entretien. Ça a été un réel plaisir et je me sens vraiment honoré. Alors, au revoir.
À très bientôt.
Alors, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette conversation. Si vous avez aimé, mettez le pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Partagez avec vos proches, amis, avec vos collègues, avec des membres de votre famille qui seraient aussi inspirés par les partages de nos invités. Demandez-leur surtout de s'abonner et on prend prochainement le rendez-vous du podcast Connexion. Surtout si vous n'avez pas encore téléchargé votre exemplaire de l'e-book. L'audace d'entreprendre, c'est plus que jamais le moment de le faire. Le lien est dans la barre de description. Téléchargez librement, lisez et revenez nous dire vos impressions par rapport au partage d'expériences d'une dizaine d'entrepreneurs sur le continent africain et au-delà. Surtout, n'oubliez pas, le blog joseahodade.com est toujours disponible pour que vous puissiez y lire des articles thématiques, y télécharger des ouvrages qui seront importants pour votre développement personnel, mais aussi pour partager des réflexions et je serai ravi d'avoir vos feedbacks après lecture. Sur ce, je vous dis merci d'être resté avec nous et à très bientôt.